Elle est là, à mes côtés, pour le journal. Margot Delpierre, bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le Soudan estime que 25 000 Éthiopiens viennent d'arriver dans le pays. Ils ont fui les combats dans la région du Tigré. Les hostilités en Éthiopie risquent de déclencher un exode. Reportage de notre correspondant au Soudan.
Le procès en appel de Karim Tabou, figure emblématique de la contestation populaire en Algérie, doit commencer aujourd'hui. Les opposants dénoncent un acharnement judiciaire contre les activistes.
À Lyon, la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 est plus violente que la première. Les soignants de tous les services de l'hôpital public sont mobilisés, vous les entendrez.
En août 2015, des militaires américains ont pêché un probable massacre à bord du Thalys, 5 ans après l'attentat qui a fait 2 blessés dans le train. Le procès s'ouvre aujourd'hui.
Et après ce journal, place à la question du jour, Guillaume.
Eh bien, transition politique aux États-Unis, jusqu'où Trump peut-il aller? Je poserai la question au journaliste chef du bureau du New York Times à Paris, Adam Nociter.
Une médiation devrait commencer aujourd'hui entre les acteurs du conflit en Éthiopie. D'un côté, le gouvernement éthiopien, de l'autre, les autorités de la région dissidente du Tigré. Les tensions ne datent pas d'hier, mais depuis le 4 novembre, ils s'affrontent dans des combats meurtriers. Face aux violences, les Éthiopiens fuient. En une semaine, 25 000 réfugiés sont arrivés au Soudan, d'après les autorités locales. Ils s'entassent à quelques kilomètres de la frontière, dans le village d'El Ashaba. La grande majorité sont tigréens et certains blessés se font soigner dans une clinique improvisée. Sur place, le reportage d'Eliott Brachet.
Assis sur une paillasse, Miniam, un tigréen de 45 ans, se fait ausculter par un médecin. Un pansement lui recouvre le front, il a l'œil gonflé et de multiples hématomes.
Je suis arrivé à Maïkadra 2 jours après le massacre. Des jeunes gens s'affrontaient encore, on m'a frappé avec des pierres et roué à coups de bâton.
On nous emmène un peu plus loin, dans une clinique de fortune. Ailé, 18 ans, a le t-shirt taché de sang, déchiré par endroits. Sa main gauche est criblée d'éclats de grenades. Il a perdu 2 doigts à la main droite.
J'étais avec mon troupeau dans un champ. Tout le monde fuyait les combats. Les Amaras ont jeté une grenade dans ma direction. J'ai fui, puis je me suis évanoui.
Le docteur Dariello nettoie les morceaux de doigts déchirés et applique un nouveau bandage.
Les Amaras demandaient « Êtes-vous tigréen ?» Si oui, ils vous tuaient. Les tigréens disaient « Est-ce qu'il est Amara ?» Alors tuez-le. Je ne sais pas si on peut parler de crime de guerre, mais c'est un signal clair de l'échec total du gouvernement de Ahmed. Est-ce que ces exactions vont encore se poursuivre? C'est ça la question.
Le docteur Dariello est l'un des 3 seuls médecins dans ce camp de 15 000 personnes. Il n'est pas au bout de ses peines, la guerre se poursuit dans son pays. Il sait que les réfugiés vont continuer d'affluer.
Eliott Brachet. Son procès en appel, reporté plusieurs fois, doit enfin se tenir aujourd'hui. Karim Tabou, figure du Irak, mouvement de contestation populaire en Algérie, est poursuivi notamment pour atteinte au moral de l'armée après avoir critiqué le régime en mai 2019. Il risque jusqu'à 10 ans de prison. Le cas de Karim Tabou est l'un parmi des centaines d'autres militants algériens harcelés par la justice de leur pays, Valérie Crova.
S'il fallait démontrer l'acharnement judiciaire dont sont victimes les opposants algériens, un chiffre parle de lui-même. Saïd Sali, le vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme.
La semaine passée, en une journée, on a eu 50 comparutions sur 50 tribunaux, vous imaginez, à l'échelle nationale.
Aux 90 détenus d'opinion actuellement incarcérés dans les prisons algériennes, vient s'ajouter une longue liste de militants en attente d'un jugement. Tellement nombreux qu'il est impossible de savoir combien ils sont précisément.
Pratiquement tous les hirakistes, tous les activistes qui ont été relaxés, le parquet fait à chaque fois fait des appels. Donc ils sont repris dans des procès interminables, ils sont repris dans des auditions, des jugements, des convocations dans les commissariats, dans les tribunaux. Vraiment, il s'agit d'un harcèlement judiciaire. Cette épée de Damoclès peut s'abattre sur vous à tout moment. C'est le cas vraiment de toutes les voix discordantes qui peuvent être condamnées à tout moment, à tout moment. Voilà, c'est la situation.
C'est une machine implacable qui s'abat sur les activistes, renchérit Saïd Sali, pour qui le cas de Karim Tabou, déjà condamné à 1 an de prison ferme dans une première affaire, puis de nouveau inculpé dès sa sortie de prison pour les mêmes motifs infondés, est la parfaite illustration.
Maia Sandu a remporté l'élection présidentielle en Moldavie hier. L'ex-première ministre pro-européenne devance largement le sortant pro-russe. À 48 ans, elle deviendra la première femme à accéder à la présidence de cette ex-république soviétique. Nous y reviendrons dans le journal de 8 heures de France Culture.
7h05 sur France Culture, le journal de Margot Delpierre. Tout porte à croire que nous avons passé un pic épidémique, a affirmé hier le ministre de la Santé.
Le virus commence à moins circuler en France grâce au confinement, a expliqué Olivier Véran. La France approche les 2 millions de cas de Covid-19 depuis le début de l'épidémie, mais le nombre d'entrées en réanimation était hier au plus bas depuis 3 semaines, selon Santé publique France. Ces dernières 24 heures, 270 personnes ont été admises en réanimation. Au moins 302 malades sont morts à cause de ce coronavirus. Si le pic semble derrière nous, la situation ne s'améliore pas forcément dans les hôpitaux. Exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, jamais autant de patients n'ont été accueillis et les malades sont désormais répartis dans tous les services, quelle que soit leur spécialité. Les soignants ont dû se former sur le tas, comme ici à Lyon, en neurologie, Mathilde Imberti.
Face à cette deuxième vague, plus dévastatrice que la première à Lyon, l'hôpital public s'est entièrement réorganisé. En neurochirurgie, les soignants ont fait de la place pour accueillir 16 lits dédiés au Covid. Pascal est infirmière dans ce service depuis 19 ans. Elle a dû se former au fil de l'eau.
C'est des gens avec des vrais problèmes respiratoires qu'on voit peu dans les services de chirurgie. Et moi, j'ai été un peu impressionnée par la rapidité de dégradation de ces patients-là. On les voyait se dégrader au fur et à mesure de la journée, en fait. Et certains sont partis, en fait. Donc c'est cette ambiance de crise permanente qui fait que ça peut être stressant. Ouais.
Et l'heure du repos n'a pas encore sonné pour ces soignants. Cadre, Patricia Diaz s'occupe des plannings, ils peuvent bouger à chaque instant.
Le personnel espère pouvoir avoir des vacances à Noël. Je pense que c'est leur demande. Voilà. Mais bon, on a du mal à se projeter.
Ce qui contrarie le professeur Sylvain Reims, chef de service, c'est le sort réservé à ses patients habituels. Les délais s'allongent, par exemple pour les chirurgies liées à l'épilepsie.
Début 2020, on était dans des délais de 6 mois à peu près. Les déprogrammations du printemps et celle actuelle fait qu'à l'heure actuelle, on est passé à des délais de plus de 12 mois. Donc on a vraiment une inquiétude forte sur comment on va arriver à reprendre correctement en main les filières de soins.
L'hôpital accaparé par le virus, il n'y a jamais eu autant de malades Covid aux hospices civils de Lyon. 800 personnes y sont soignées actuellement.
Et c'est à Lyon que se déplacera ce matin le ministre de la Santé. Il assistera au transfert de plusieurs patients vers d'autres régions un peu moins débordées par l'épidémie. Les soignants n'ont cessé de dire au gouvernement qu'ils voulaient plus de moyens humains et matériels. La crise sanitaire l'a bien montré, les respirateurs, les sondes sont devenus essentiels et il est crucial de les produire au plus près des besoins en France. Les entreprises qui fabriquent ces dispositifs médicaux sont néanmoins sommées de baisser leurs prix dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, avec à moyen terme des conséquences sur l'innovation et les 90 000 emplois du secteur. Philippe Chen préside le syndicat national de l'industrie des technologies médicales.
Lorsque l'on entend secteur stratégique, on entend plan stratégique. Et lorsque l'on entend plan stratégique, on entend plan à moyen terme ou à long terme pour développer ou réduire la dépendance sanitaire du pays en s'appuyant sur des relocalisations industrielles, sur des acteurs français du dispositif médical. Donc on a entendu ce message-là. On était donc très surpris et on trouve inacceptable de rentrer de nouveau, comme si rien ne s'était passé, dans une régulation annuelle où de nouveau on va regarder quelles sont les recettes, quelles sont les dépenses et couper les dépenses. Sans, encore une fois, tenir compte des besoins. Ça, c'est vraiment une surprise pour nous. Lorsqu'on nous demande de faire 150 millions d'euros d'économies en 2021, on nous dit que c'est 50 millions de moins que ce qu'on avait demandé l'année précédente, où il y avait des économies de 200 millions qui étaient demandées. Mais c'est quand même 150 millions d'euros de baisse de prix. Et on veut baisser les prix vis-à-vis d'entreprises qui, pour la plupart, dans le secteur des dispositifs médicaux, sont des PME. 90% sont des PME. Tout en leur demandant d'investir pour sécuriser leur chaîne d'approvisionnement, pour relocaliser un certain nombre de productions. C'est ce qui nous paraît inacceptable.
Philippe Chen, propos recueillis par Marie Viennot, qui nous reparlera plus longuement des entreprises de matériel médical. Rendez-vous à 7h24 pour le reportage de la rédaction. Plus de 5 ans après l'attaque du Thalys et lors du procès, l'attentat n'avait fait que 2 blessés dans le train grâce à l'intervention parmi les passagers de militaires américains. Devant la cour d'assises spéciale de Paris, l'assaillant devra répondre de tentatives d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste en compagnie de 3 autres hommes jugés, eux, pour complicité et association de malfaiteurs, Florence Turm.
Ayoub El-Razani commence par livrer une version fantaisiste aux enquêteurs. Il déclare avoir voulu commettre un vol avec du matériel trouvé par hasard dans un parc de Bruxelles. Lui qui était monté dans le Thalys armé d'un fusil d'assaut, d'un pistolet automatique, de nombreux chargeurs et munitions. Mais au bout d'une année entière de silence, son récit corrobore en partie les nombreuses investigations réalisées. Tout d'abord un court séjour en Syrie au mois de mai 2015, 9 jours seulement, mais assez pour bénéficier d'un entraînement intensif au maniement des armes, en repartir avec des instructions à venir et surtout croiser la route d'Abdelhamid Abaoud, considéré comme le cerveau des attentats du 13 novembre 2015 et qui sera tué lors de l'assaut des forces de l'ordre à Saint-Denis. Les deux hommes vont d'ailleurs voyager ensemble vers l'Europe, précédés d'un éclaireur également poursuivi dans ce dossier. Entrés dans le flot des migrants sous de fausses identités par l'île grecque de Chios, ils rejoignent la Belgique et s'installent ensemble dans un appartement conspiratif, 15 jours avant de passer à l'action. Une action dont Abdelhamid Abaoud a orchestré les moindre détail, Ayoub El-Razani avait pour consigne d'acheter un billet de première classe dans le Thalys et de monter dans le train en gare de Bruxelles. Le commanditaire lui aurait indiqué une voiture précise, la 13, en désignant les militaires américains et non pas des civils comme cible. Thèse jugée peu crédible par les enquêteurs, l'objectif du groupe État islamique restant d'assassiner un maximum de victimes de manière indiscriminée. Et s'il affirme avoir renoncé de lui-même à son projet d'attentat à la dernière seconde, c'est bien l'action des passagers du train qui a permis ce jour-là d'éviter un véritable massacre de masse.
Florence Turm. France Culture ne serait pas ce qu'elle est sans les livres, leurs auteurs, leurs éditeurs et les librairies. Journée spéciale sur notre antenne alors que la chaîne du livre tente de s'adapter en plein confinement avec l'écrivain Edgar Quéret, invité de Guillaume Erner à partir de 7h40. Et à 12h30, pendant le journal, le patron d'Amazon France, très critiqué en ce moment, qui sera l'invité de la rédaction. Décollage réussi cette nuit pour la fusée Space 6, 3 astronautes américains et un japonais sont à bord. Direction la Station Spatiale Internationale, c'est un grand jour pour les États-Unis d'Amérique et pour le Japon, s'est réjoui le chef de la NASA. La météo sur Terre et en France, le temps sera bien souvent gris, parfois pluvieux sur le nord. Météo France prévoit au plus chaud 12 degrés à Lille, 14 à Lyon et jusqu'à 18 à Ajaccio, Guillaume.
Merci Margot Dalpierre. Dans quelques instants, on va évoquer la transition politique aux États-Unis avec le chef du bureau du New York Times à Paris, Adam Nociter.